Papa, à quoi tu joues ?
Bonjour, je suis Jean.
Salut, moi c'est Arnaud.
Bonjour, je suis Eddy.
Nous sommes en octobre, le mois où vous pouvez écouter Papa à quoi tu joues en buvant de la bière et en vous enfilant des saucisses. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 48e épisode de Papa à quoi tu joues, le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvre une petite porte sur la culture vidéoludique. Après ce pré-générique comment allez-vous messieurs ?
Bien, justement, en parlant de bière, hein.
Oui.
En effet.
Voilà, c'est Oktoberfest. Si vous avez l'occasion, évidemment, n'oubliez pas de passer en Bavière pour le fêter comme il se doit. Nous sommes donc avec Arnaud, vous l'avez entendu, et Eddy. Eddy, le retour. Bonjour, Eddy, le retour.
Bonjour, on ne se débarrasse pas de moi aussi facilement.
Voilà, alors comme la dernière fois que tu étais dans le podcast, c'était pas des conditions idéales parce que vous vous battiez pour un micro.
Donc, c'est ça. Voir que j'ai réussi à plaquer Eddy parce que j'avais monopolisé quand même le micro. Hein, d'abord.
Voilà, et donc tu as demandé un match retour pour pouvoir écraser Arnaud comme il se doit.
Je suis pas certain de réussir.
Voilà, David nous quitte momentanément, donc il n'est pas mort momentanément, c'est juste que il a deux enfants, ça lui prend du temps, il a son podcast à lui aussi à gérer, et donc il fallait qu'il se libère du temps, et comme ici il n'y avait aucune obligation, il était libre de venir et de partir quand il voulait. Donc voilà, alors c'est pas un adieu, c'est un au revoir, et quand il aura un peu plus de temps, eh bien il reviendra avec nous. On va donc passer directement au jeu du mois. Alors, ce mois-ci, j'ai du... Je ne sais pas si je peux dire du lourd, mais voilà. C'est... Non, mais parce que, en même temps, si je dis du lourd, ça peut être mal pris, c'est pour ça. Alors, bientôt 8 ans que Bayonetta est sorti, et je n'en parle que maintenant. Bah oui, parce que Bayonetta vient de sortir sur PC dans une version HD à 60 FPS. Et à l'époque... Je me souviens très bien de pourquoi je ne l'avais pas acheté. Beaucoup de gens, à l'époque, avaient crié au chef-d'œuvre, un beat'em all nerveux, bien rythmé, facile à prendre en main, avec une héroïne aux formes généreuses, n'ayant pas beaucoup de pudeur, et même provocatrice. Et c'est bien ce qui me gênait, et qui m'a toujours gêné, jusqu'à ce que j'y joue. Oui, pour moi, Bayonetta, c'était l'expression d'un développeur lubrique qui pouvait mettre ses fantasmes de dominatrice en cuir enfin sur un écran et de pouvoir tout contrôler avec une manette. Après tout, même Hideo Kojima le fait. Cette immense brune qui écarte les jambes pour pouvoir flinguer à tout va avec ses pistolets qui remplacent ses talons aiguilles. Cette sorcière qui s'habille avec ses cheveux et qui, pour invoquer les démons, doit donc se servir des mêmes cheveux pour matérialiser les démons invoqués, donc elle se retrouve à poil lors d'une invocation. Cette femme qui fait passer la caméra au plus près de ses hanches, de ses seins et de son sexe juste pour prendre la pose et la jouer provoque en mimant le léchage de pistolet, non, c'était trop. Et donc, 8 ans plus tard, mon avis n'avait pas bougé d'un poil. Mais dans un souci de professionnalisme, je me dis que ce n'est quand même pas un hasard si ce jeu est encore aujourd'hui applaudi et, qui plus est, par des féministes. Je l'achète donc à l'occasion de cette refonte en HD. Et là, c'est une petite claque. Je comprends très rapidement qu'entre regarder et jouer à Bayonetta, il y a juste le Grand Canyon. Cette hypersexualisation exacerbée disparaît immédiatement au profit d'un beat'em all nerveux, fluide et facile à prendre en main, avec donc un plaisir et une satisfaction immédiate. Déjà, contrairement à pas mal de productions du genre, pas de « au début j'ai tous mes pouvoirs et je les perds pour les récupérer tout au long de l'aventure ». Dès le départ, on rocks du poney bien comme il faut. Et on va gagner des capacités au cours de l'aventure. Bayonetta, elle est pas là pour rigoler. Elle enchaîne les coups et tranche du monstre tant qu'elle peut. Elle est au centre d'une guerre entre les anges et les démons et les sorcières, qui ont toutes été massacrées, sauf elle, donc les anges et les démons, ils l'ont un peu de travers. Et donc, en tant que sorcière, elle est la gardienne d'une moitié de reliques que les anges aimeraient bien récupérer, parce qu'ils ont l'autre moitié. Mais elle, elle le sait pas, en fait, parce qu'elle a perdu la mémoire. Bon, ok, fallait bien mettre un cliché du jeu vidéo. Alors, elle passe son temps à botter des culs. Et parfois, on parle de culs qui font 5 ou 6 mètres de haut. Hein. Mais voilà, certains événements vont la pousser à en savoir plus. La seconde chose qui rend Bayonetta exceptionnelle, c'est bien son héroïne. Attention, hein, on parle ici d'une badass girl qui met Lara Croft à l'amende. Bayonetta, elle est forte, elle est indépendante, elle n'a besoin de personne, elle est sexy as fuck et elle le sait. Mais ce n'est pas pour autant que c'est une Marie couche-toi là. Elle est constamment dans la provoque et les seuls qui arrivent à approcher son anatomie d'assez près, eh bien sont morts la seconde suivante parce que quand elle met une tête entre ses jambes, c'est bien pour la dévisser. C'est elle qui mène le jeu, y compris avec le joueur. Elle s'amuse à se dévoiler sans jamais dépasser la limite, uniquement dans l'optique de frustrer le joueur qui ne verra jamais plus que ce qu'elle veut montrer parce que c'est elle qui l'a choisi. Bayonetta, c'est ça. Et même quand ma femme m'a vu jouer, elle m'a ressorti tous les a priori que j'avais avant d'y jouer et je lui ai expliqué donc tout ça. Elle n'a pas été convaincue pour un sou. Alors, j'en suis arrivé à cette simple conclusion. Il n'y a qu'un seul moyen d'apprécier et de comprendre Bayonetta, c'est d'y jouer. Alors si le jeu vous a toujours intrigué, de quelque manière que ce soit, il y a fort à parier qu'une fois dans les mains, vous allez le surkiffer. Par contre, bah oui, il va de soi que c'est un jeu mature et que par sa violence et son côté gore et sa mise en scène érotico-provoque, on éloignera fortement les enfants. Le jeu ne sauvegarde pas toujours à des endroits très heureux et arrêter une partie pourra se révéler frustrant car vous obligeant à refaire un passage particulièrement pénible déjà réussi. Je vous conseille donc de le faire chapitre par chapitre, malgré les quelques inconvénients que cela comporte, notamment le « bon, allez, encore un petit » et le fait que les chapitres sont de durée très inégale. Pour le côté parentalité, il est tout de même à noter que Bayonetta traite timidement le sujet de la filiation mère-fille, mais c'est quand même appréciable, d'autant que c'est bien fait. Bayonetta, ça vous coûtera une 20aine d'euros sur PC et moins sur console PS3 et 360, et oui, et ça vous promet une bonne dose d'éclate dans tous les sens du terme. Que vous soyez un adepte des jeux difficiles ou pas, la difficulté peut être adaptée en cours de jeu et donc certains passages ardus peuvent être moins pénibles, donc en adaptant cette même difficulté. Voilà, j'ai pas beaucoup énormément parlé sur Bayonetta, ça raconte quoi, parce que on s'en fout un peu. pas totalement, mais on s'en fout un peu. On est là, on passe les décors et comme je l'ai dit, on botte des culs, on arrache des têtes, voilà, c'est ce qu'on veut. On récupère des trucs, des haches qui font 3 fois notre taille, mais c'est pas grave, on coupe des têtes avec, il n'y a pas de souci. On invoque des trucs qui font 12-15 mètres de haut, pas de problème. On fracasse des monstres qui en font même 20 ou 25, ouais, il n'y a pas de souci, ça se fait très bien. Et plus on avance dans le truc, plus on sent que voilà, elle a la puissance, elle marche, mais elle roule du cul d'une façon, mais c'est inhumain. Hyper provocant, c'est non mais oui, bah c'est presque inhumain, oui. Mais voilà, c'est elle la patronne. C'est elle la patronne. Elle a des pouvoirs, elle a des flingues et elle mène le jeu du début jusqu'à la fin et c'est juste un kiff mais hyper total. Et voilà, comprendre Bayonetta, c'est jouer à Bayonetta, il n'y a pas d'autre moyen d'apprécier Bayonetta. Voilà. Pas de questions, c'est clair, vous allez y jouer maintenant?
Alors, personnellement, j'avais déjà joué à l'époque sur 360.
Ouais.
Partie de ceux qui criaient au chef-d'œuvre. Non. Mais oui, bah, je comprends totalement. la, pas forcément l'a priori, mais les réserves que tu avais à y jouer. Tout comme je peux comprendre ceux de ta compagne, parce que quand ils jouent pas, en fait, tu l'intérêt du jeu, qui est l'intérêt de botter des cubes. Donc, quand ils jouent pas, tu vois juste les différentes cinématiques qui. Toujours dans l'over the top, mais c'est assumé, c'est fait pour ça. Et en fait, quand tu fais des cinématiques sans contexte, des fois tu fais c'est un
petit peu. oui, c'est ça. Non, mais parce que tout est vraiment une question de contexte. Et il n'y a pas. Mais j'ai jamais vu, en fait, un jeu qui ne permettait pas de le comprendre avant d'y avoir joué. C'était vraiment ça, parce que j'essayais vraiment de comprendre Bayonetta au début et j'y arrivais pas. J'étais là et je voyais ses cuisses écartées, et je voyais qu'elle mettait en avant ses seins, et je voyais qu'elle roulait du cul, et je voyais qu'elle tirait sur tout ce qui bougeait. So what. Mais une fois que tu l'as en main, t'as plus besoin d'explication. Et en plus, tout ça, là, le fait qu'elle roule du cul, tout ça, tu ne le vois même plus. Parce que c'est elle qui décide de le faire. Donc toi, tu ne le vois plus. C'est pas quelque chose qui est important du tout. Mais ça fait partie intégrante du personnage et ça fait partie de sa personnalité de femme forte. Et c'est pas parce que t'es sexy que t'as pas le droit de te montrer sous ton meilleur jour et d'assumer. D'assumer ton physique et cette féminité vraiment exacerbée sans pour autant être une Marie couche-toi là quoi. Voilà. Eddie, je vais te passer la main. Juste pour remettre le contexte, donc Eddie m'a demandé de quoi, enfin il m'a proposé une série de jeux dont il pouvait parler. Et la description qu'il m'a fait de celui-là m'a tellement intrigué que c'était impossible qu'il fasse autre chose. C'est un jeu que je connais absolument pas, mais le pitch en quelques lignes que tu m'as donné, c'était juste Vas-y.
En fait, je vous parlais de. Alors, j'ai utilisé le. Je vais pas utiliser le nom complet hein, parce que c'est trop long, de Valhalla. En fait, c'est écrit VA11OLA, qui est en fait un nom de code. Mais en fait, c'est une simulation de barmaid dans un mode cyberpunk. Comme ça, tout de suite, ça fait un jeu qui est très très spécial.
Voilà, c'est pour ça que je t'ai demandé de faire celui-là.
C'est vraiment on est plutôt sur un visual novel. Hein. Donc c'est tout en anglais. Faut quand même bien s'accrocher si on n'est pas bon en anglais. Voilà. Mais en fait, le gros intérêt de ce jeu, c'est que on joue une barmaid, et en fait, tout est vraiment orienté autour de ça. Donc c'est un bar un petit peu miteux, voilà, les gens qui, les premières personnes qui rentrent dedans disent que c'est un bar dégueulasse, crade, que ça, c'est un mi-chemin entre une odeur d'urine de chien et de bière. Et en fait...
Très accueillant.
Toutes les personnes qui rentrent là, la plupart rentrent par hasard et le but c'est vraiment de découvrir l'univers, de découvrir le jeu à travers les différents clients qui viennent. C'est un monde cyberpunk, donc c'est vraiment un monde qui est très 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 cynique. C'est pas un jeu très politiquement correct. Hein. On y parle de sexe, de corruption, de crime, d'insécurité. On parle souvent, il y a des émeutes qui sont réprimées par la force, par des corps des chevaliers blancs, qui sont un corps militaire. Et justement, il y a des personnes qu'on rencontre qui font partie de ce corps militaire-là. Et on voit que tout n'est pas forcément blanc ou noir, qu'il y a pas mal de zones de gris en fait. Et tout l'embranchement du jeu, c'est simple en fait. Et pour faire un cocktail, on a une interface avec 5 composants et on a des livres de recettes. Donc, sur le livre de recettes, on peut rechercher par nom, on peut rechercher par saveur, on peut rechercher par type. Et si au début les gens viennent en disant fais-moi une bière, très vite ils vont commencer à dire fais-moi un truc qui est sucré, fais-moi un truc qui est froid, fais-moi un truc qui arrache. Et le but, c'est de leur faire les boissons qui leur conviennent pour pouvoir avancer dans le jeu. Alors, si jamais on fait une boisson qui convient pas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on n'a pas de pourboire. D'accord, de la guerre, oui. Parce que à la fin du mois, ça déroule sur 19 jours, je crois. À la fin du mois, on a le loyer à payer. Et si t'as pas fait suffisamment de tips, ben, t'es viré de chez toi et tu finis sous un pont. Ce qui, dans le monde.
Mais c'est... Est-ce que t'as joué à Papers, Please?
Bah, c'est un peu ça. C'est
bah ouais, voilà.
Pas totalement similaire, mais t'as un petit peu ça. C'est en gros, donc l'héroïne, Jill, elle a plusieurs trucs à payer. Elle a son abonnement au journal, l'électricité, elle a son loyer, et à chaque fois, tu dois payer. Si tu peux pas payer ton abonnement au journal, t'as plus de journal, tu peux plus payer l'électricité, chez toi, tu vis dans le noir, et après, sinon, bah, t'es viré de chez toi. Le jeu se déroule en plusieurs phases. T'as une phase chez toi, ben, c'est vraiment pour voir l'univers, lire les journaux, voir ce que pense Jill, parler à son chat. Parce que c'est une célibataire, elle a un chat. et à partir de là, t'as ces phases-là, et t'as les phases de jour où tu es dans ton bar, et ben, avec les clients qui viennent, tu fais les cocktails. Ben, c'est découpé en journée, comme ça. Les journées, un groupe de plusieurs journées, ça permet d'avoir des chapitres. Et tu peux sauvegarder à ta pause, au milieu de journée, et tous les soirs, quand tu es chez toi. C'est comme je disais, c'est vraiment un visual novel. Hein. Si on n'est pas fan des visual novels, il ne faut pas y aller. Le gros intérêt du jeu, c'est qu'il met aussi très rapidement dans l'ambiance. On est dans un bar, quand tu rencontres ta meilleure amie, bah elle te parle comme c'est ta meilleure amie. Il n'y a pas d'introduction en disant bah voilà c'est machin, elle travaille là-dedans. Et du coup, on te parle de cette manière-là et au fur et à mesure des phrases, t'apprends sur l'univers et t'apprends sur les gens. C'est vraiment hyper bien fait. L'univers, si tu as un petit peu, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Il y a des cyborgs, il y a des chiens qui parlent. Voilà. D'ailleurs, le jeu commence. Il y a eu pendant le week-end, il y a eu des corgis d'une entreprise qui sont venus dans le bar et qui ont dégueulassé absolument tout le bar. Donc voilà, les toilettes sont complètement dégueulasses. Et donc, Jill arrive. Il y a son collègue qui était pas là pendant le rush, justement pour enlever les chiens. Donc il lui fait nettoyer les toilettes. Et pendant tous les premiers clients, on entend son collègue qui râle en disant « Ah, mais c'est pas possible! Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» À un moment, il revient, il lui dit « Ah oui, mais t'as pensé à regarder le cadre où on met le papier toilette ?» Au père, il fait « Ah, mais c'est n'importe quoi! Comment ils ont pu faire ça ?» Donc, là, c'est tout est comme ça. Et pour le côté vraiment cynique, il faut voir que dans les meilleurs amis de Jill, il y a un robot sexuel. C'est son boulot, c'est un robot sexuel. Donc c'est une IA développée, donc il y a de partout. Et en fait, elle explique de manière très cynique un corps d'une fille de 13 ans. Okay. Elle dit, bah, les robots sexuels, il y en a plein. Moi, j'ai pris la fille de 13 ans parce que bah, voilà, c'est mon facteur différenciant. Ça me permet de gagner plein d'argent.
Ok.
Okay.
Un truc qui est très, très cynique. Hein. On rencontre un mania des médias. Qui raconte sa vie, qui crache plutôt que sur les investisseurs, voilà, donc comme je dis, c'est vraiment, vraiment très, très cynique.
Et les clients, en fait, ça peut être des clients fidèles qui reviennent uniquement, par exemple, les meilleurs amis ou les de genre qui reviennent, etc.
Plus d'une vingtaine de personnages qui reviennent régulièrement. Par exemple, le gros mania est de bande plusieurs fois le même cocktail. Il y a un premier jour. Et après le deuxième jour, il te dit pas, bah je reviens ce cocktail là, il fait bah mets-moi la même chose que d'habitude.
D'accord, ils ont plus d'intérêt à te rappeler.
Des cocktails des gens, parce que par exemple, il y a une personne qui vient à un moment donné, elle prend que des trucs sans alcool, puis un jour elle arrive et dit ah bah non, j'aimerais que tu me files un truc avec alcool. Elle te dit bon, juste un truc avec alcool, je lui file un truc sans alcool pour qu'elle en parle et pas qu'elle noie ses problèmes dans l'alcool, tu vois. Et en fonction des cocktails que tu sers aux gens, en fait ça change les différents choix de dialogue qui arrivent. T'as pas de vrai choix en disant je réponds ça ou ça, tu choisis par les cocktails.
Et donc le but?
Oui, c'est ça que j'ai demandé. C'est quoi le rapport avec le nom de code?
Qui s'appelle Geek City, donc c'est une ville cyberpunk complètement défoncée. La chaîne de bar dans laquelle tu travailles, qui gère les cocktails de cette manière-là, s'appelle la chaîne BTC. Ça fermé, hein. Ils sont en train de fermer plusieurs bars parce qu'ils ont des problèmes financiers. Et aussi, ils se sont rendus compte que beaucoup de bars, en fait, utilisaient leur marque pour faire du trafic de drogue, du trafic d'armes. Donc, en fait, ils sont en train de fermer les bars au fur et à mesure. Et donc, forcément, le bar a mauvaise presse, donc personne y va.
D'accord.
Et donc, toi, t'es dans ce bar-là, tu sais pas comment va finir ta fin du mois, si tu vas être viré ou non, si tu vas pouvoir payer ta rente fin du mois. Et le but principal du jeu, en fait, c'est de survivre tout le long du mois et de pas être viré.
Ok. Est-ce qu'il y a une fin, du coup ?
Sept fins différentes.
Mmh.
Fonction de ce que tu fais à quel moment. Après, t'as des changements de dialogue qui changent pas les fins, mais qui permettent de débloquer des succès ou avoir en apprendre plus sur la vie de certains personnages, en fait. Tu suis plus les personnages et comment ils évoluent dans ce monde un petit peu bizarre que tu suis l'histoire de la vie. Hein. J'ai donné envie de jouer au jeu, parce que c'est vraiment très très spécial. Hein. Je pense que c'est comme Bayonetta. Si tu joues pas, à mon avis, tu dois pas trop voir comment c'est dedans. Quoi. Nous, on se prend vraiment au jeu. Je sais même plus comment
m'entendre parler.
J'ai essayé, puis tu fais, ah ouais, tu continues. Puis après, t'as les nouveaux persos qui arrivent, t'essaies d'apprendre sur leur vie. Puis t'as un vieux perso qui revient, t'es, ah mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie entre temps? Et puis, ben, tu restes à jouer jusqu'à 3h du matin.
Ouais, non, mais moi, quand tu m'en avais parlé, et là encore, quand tu en parles, ça me fait furieusement envie, tu vois, toutes ces possibilités de. Qu'il se passe quelque chose, enfin, des choses différentes selon les cocktails que tu vas faire, selon. Enfin, tu dois connaître tes clients. Du coup, est-ce que t'as un petit carnet à côté de toi pour. Enfin, toi physiquement est-ce que tu t'es fait un petit carnet pour prendre des notes?
Oui, je me suis fait un petit carnet pour prendre les notes, parce que sinon c'est un... À certains moments c'est compliqué, surtout si t'arrêtes de jouer pendant un certain temps et tu reviens le
même jour. Oui.
Mais voilà la même chose. Sachant qu'il y a un système de jeu aussi qui est pas mal.
Mm-hmm.
Donc Jill, t'as accès aux différents logs de la journée. Donc quand quelqu'un t'a parlé, tu tapes la table, t'as accès aux logs. Quand quelqu'un te commande un truc, t'as une petite fenêtre te rappelant rapidement ce que la personne t'a demandé. Par contre, Jill est une acheteuse compulsive. Et tous les jours, il faut qu'elle achète quelque chose, sinon elle est pas bien, elle n'arrive pas à se concentrer à son boulot. Pas le truc qu'elle a demandé, t'as plus accès au log. Et quand la personne te demande un truc, si t'as été bête, t'as appuyé sur espace ou si t'as cliqué rapidement, en fait, elle se rappelle plus de ce que la personne a commandé.
Ok, donc, alors je vais essayer de le relire. Donc ça s'appelle Valhalla Cyberpunk Bartender Action. Et c'est sur quoi ?
T'entends plus, Eli.
Sur PC, Steam.
Uniquement ? Il n'y a pas de version tablette ?
Alors je sais pas, peut-être. Alors je dirais que je me suis pas renseigné, parce que j'ai joué pas principalement, mais uniquement sur Steam. Ça doit pouvoir se faire. On pourra les mettre dans les notes de l'émission, recherchant entre temps.
Ok.
Pénible, d'ailleurs.
Ok, ça marche. Eh bien, donc, nous vous avons conseillé donc Bayonetta si vous êtes faussement lubrique, parce qu'il ne s'agit absolument pas de ça, ou Valhalla Cyberpunk Bartender Action si vous êtes un faux alcoolique, parce qu'il ne s'agit absolument pas de ça non plus. Il est l'heure de passer au bonus stage. Oui, j'ai un bonus stage ce mois-ci. Je vais vous parler d'un jeu sans histoire, sans aucun enjeu, donc un jeu qui va vite à pitcher. Je vais vous parler de Dead by Daylight. C'est un jeu dont j'ai déjà parlé, quelques fois, je pense, ici. Je suis pas sûr, mais... Je pense que j'en ai déjà parlé. Et là, pour moi, là, c'était le moment d'en parler. Alors, qu'on aime ou pas, on a tous déjà regardé ces films dans lesquels une bande de jeunes vont se perdre au fin fond de nulle part, se retrouvent pris au piège par un tueur psychopathe qui va les tuer un par un. On a tous dans la tête quelque chose comme ça. Voilà simplement, de manière simple, ce que propose Dead by Daylight. Donc, je vous l'ai dit, je l'avais évoqué, mais aujourd'hui, en fait, je pense que le jeu est enfin arrivé à maturité, et donc c'est pour ça que j'en parle maintenant. Vous avez le choix, vous incarnez soit une des quatre victimes, soit le tueur psychopathe. En tant que survivant, vous jouez en vue à la troisième personne avec trois autres joueurs. Votre but, ça sera de réparer quatre moteurs éparpillés sur la carte pour réalimenter les deux portes de sortie. Vous pouvez vous mettre jusqu'à 3 sur un moteur pour le réparer plus vite. Réparer un moteur déclenchera régulièrement des tests d'habileté, donc c'est-à-dire un cercle autour duquel une aiguille tourne, aiguille qu'il faudra stopper en appuyant sur espace dans une fine zone signalée en rouge. Sinon, c'est le court-circuit qui fera du bruit et endommagera le moteur. Le bruit attirera le tueur qui aura un signal visuel précis d'où vient le bruit. Le tueur, lui, se joue à la première personne. Il court légèrement plus vite que les survivants. Bah, c'est normal, sinon il ne pourrait pas les rattraper. Lorsqu'il frappe une première fois, il blessera le survivant et le mettra au sol lors de sa seconde frappe. Il pourra alors le transporter pendant un temps plus ou moins court, ça dépend si le survivant se débat plus ou moins fort, par-dessus son épaule pour pouvoir aller l'accrocher à un crochet au crochet de boucher le plus proche. Et repartir donc en chasse. Les autres survivants pourront essayer de décrocher leur petit copain afin de lui éviter de mourir, ce serait sympa. C'est la base de Dead by Daylight. En vrai, c'est bien plus subtil que ça puisque chaque survivant possède des capacités propres et chaque tueur également. Mais les tueurs en plus des capacités, c'est aussi le gameplay qui change. Après chaque partie, vous gagnerez des points de sang à dépenser dans un arbre de talent unique pour chaque personnage et... ces arbres de talent vous imposeront des choix à partir du niveau 10 de chaque personnage. Donc à partir du niveau 10, on ne pourra plus prendre toutes les choses que l'arbre de talent propose. Ajoutez à cela des offrandes, des accessoires qui permettent des améliorations ou des modifications des compétences. Le jeu en fait est bien plus profond qu'il en a l'air et pour moi le seul reproche que je peux lui faire en fait c'est qu'il est en kit, puisque de base il est livré avec 3 tueurs et 5 survivants. Le reste étant disponible en DLC, entre 3 et 7 euros.
Ah oui,
mais les développeurs... Ouais, mais les développeurs sortent aussi des DLC gratuits. Ils sont au nombre de 3 et proposent 2 tueurs supplémentaires et 1 survivant. Un DLC payant contient généralement un tueur et un survivant. Chaque DLC est de qualité, puisque l'équilibrage des tueurs est à mon sens hyper bien géré. Il n'y a pas un tueur mieux qu'un autre, malgré leur gameplay tous différents. Généralement, quand il y a un nouveau tueur, vous savez très bien que je suis pas du genre à me jeter sur un truc dès sa sortie, forcément. Mais là, je sais que dès qu'il y a un nouveau tueur, j'ai même pas besoin de regarder une bande-annonce ou quoi que ce soit, je sais que je vais l'acheter. Donc généralement quand il y a un nouveau tueur, tout le monde crie ouais c'est cheaté, c'est machin, mais non, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de jouer avec. Et quand je joue en tant que survivant, ce qui m'arrive pas énormément, hein, je préfère faire le tueur, quand je joue en tant que survivant, eh bien il n'y a pas un tueur qui me fait plus peur que les autres, qui me fait plus galérer qu'un autre, parce qu'ils ont chacun leur façon de jouer, ils ont chacun leur dangerosité, et non, il n'y en a pas un mieux qu'un autre. Effectivement, il y en a qui font plus mal que les autres, il y en a qui n'ont pas besoin de 2 coups pour mettre un survivant par terre, mais ça nécessite des choses beaucoup plus contraignantes avant d'asséner le coup. Et je trouve que l'équilibrage est franchement, franchement top. Donc une partie, ça dure généralement une quinzaine de minutes. Les adversaires sont choisis en fonction de notre niveau. Par contre, la courbe d'apprentissage au début est un peu rude pour les tueurs parce que il faut qu'on comprenne les mécaniques et le gameplay de chaque tueur. Mais une fois que c'est bien compris, bah, c'est un vrai plaisir de se massacrer entre amis ou pas. c'est très rare que je joue avec des gens que je connaisse parce que j'ai pas 4 potes à massacrer. Du moins pas en même temps en plus, mais voilà. Alors après, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, sur le Discord il y a moyen de s'organiser des parties, et là je pense qu'il y a moyen vraiment de se prendre bain du fun, mais voilà, même en pick-up moi je m'amuse énormément en tant que tueur, pas en tant que survivant. Je pense qu'en tant que survivant c'est mieux de jouer avec des personnes qu'on connaît quand même. Pas obligatoirement 4, mais tu vois, au moins être 2 et puis...
Mais est-ce que, enfin, je veux dire, ça nécessite un vocal pour se réussir à se coordonner en tant que survivant, non ?
D'où le Discord !
C'est ça, sinon ça peut
voilà.
être...
Oui. Ouais, moi, quand j'ai joué en tant que survivant, en fait, je jouais avec ma sœur, qui, elle, est une fan absolue de Dead by Daylight. Et du coup, c'était sur son Discord à elle, on se parlait et on pouvait dire, bah tiens, moi je suis là, attention, il est ici ou il va vers toi. Et du coup, ça prend une autre dimension. Et pour le joueur, enfin, quand tu es tueur, tu le sens tout de suite quand les gens se parlent ou pas. parce que c'est beaucoup plus dur de les trouver. Parce qu'ils n'arrêtent pas de se dire où est-ce que moi je suis, mais dès que t'en as trouvé un, du coup ça sème la zizanie et leur plan est pas forcément bien, se déroule pas comme ils voudraient, et puis s'ils font du bruit, du coup voilà. Et puis toi, tu en tant que tueur, tu peux aussi faire quelque chose de totalement imprévisible. T'es en train de poursuivre quelqu'un, machin, et tu l'as presque tué, et puis d'un coup tu vas faire demi-tour parce que tu sais qu'il y a quelqu'un derrière toi, et alors que eux, la majorité des joueurs qui jouent survivants, parient sur le comportement du tueur, le comportement compulsif et obsessionnel du tueur. C'est, il a quelqu'un en ligne de mire, il va le suivre jusqu'au bout. Et quand tu arrêtes de faire ça, du coup t'as beaucoup plus de chances de remporter le match.
D'accord. Mais comment tu le sais? Parce que par exemple, là, tu dis, parce qu'il y a forcément un mec qui est en train de te suivre derrière, mais comment tu le sais?
Non, pas forcément. Parfois, c'est un pari, tu vois.
D'accord.
Je vois la vidéo qui est en train de passer. Dans ce niveau-là, il y a de longues lignes droites. Et parfois, je fais le pari de, quand je vois qu'il me fait trop galérer, machin, je fais le pari de me retourner et donner un coup direct. Alors, parfois, c'est dans le vide. Parfois, ça fait mouche. Et quand c'est dans le vide, quand tu donnes un coup dans le vide en tant que tueur, tu perds énormément de temps et ta visibilité, parce que quand tu donnes un coup, c'est un gros coup, donc tu regardes par terre, donc tu vois plus ce qui se passe devant toi. Mais tout ça est très très bien géré, très bien équilibré.
D'accord.
Voilà. Et c'était tout pour les jeux du mois. Pour le bonus stage. Voilà, j'ai dit combien ça coûtait.
Sur des BRD, voilà, c'était le coup que je voulais savoir.
Oui, voilà. Alors, ça coûte 19,99€. Attends, je vérifie ça, je l'ai noté. Je l'ai pas noté
Canadiens.
Dans mon... ouais, c'est ça, 19,99€. Et les DLC, j'ai dit, hein, c'est entre 3 et 7€. Mais je regrette jamais d'acheter un DLC. À chaque fois, je redécouvre le jeu, en fait.
Mais là, il y a
l'édition
de luxe 33. Canadien.
Non, alors l'édition de luxe, elle ne comprend pas les personnages, elle comprend la bande originale et puis des éléments cosmétiques, je crois.
D'accord, ok, je pensais qu'elle.
Et Eddie, tu me demandais ?
Je disais non, mais tu le vends bien, ça donne sacrément envie en fait.
D'accord. Voilà, alors il y en a qui aiment pas du tout, mais je pense que en fait, les gens qui n'aiment pas du tout, moi aussi à un moment j'ai complètement lâché Dead by Daylight et puis je m'y suis remis. Et quand j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'avoir ce comportement obsessionnel que j'évoquais tout à l'heure. Et là, je pose beaucoup plus de problèmes en fait aux survivants. Et aussi le fait. Alors, je suis désolé, je reviens encore avec ça. Je suis daltonien. Ça me pose énormément de problèmes en tant que tueur, parce que quand les survivants s'enfuient, en fait, quand ils courent, ils laissent des traces rouges sur le décor qui ne sont pas permanentes. Donc, elles disparaissent au bout de quelques secondes. Sauf que moi, les traces rouges, c'est pas, enfin pour moi, ça me saute pas aux yeux, surtout quand les décors sont verts. Oui. Je remercie le Shadow qui a développé une feature qui était une grosse blague qui s'appelle le Shadow Mode, qui permet uniquement de voir le rouge. Les autres couleurs sont grises et ça permet uniquement de voir le rouge. Et du coup, je peux voir enfin comme une personne normale. Parce que tout ce qui est rouge me saute aux yeux comme une personne normale. Donc voilà.
D'accord. Mais ce que je veux dire, quand tu disais par exemple au niveau des crochets, c'est que l'objectif est de tous les attraper. De les tuer ensemble
sacrifier.
Ou de les tuer un par un.
Non, tu peux pas les tuer ensemble, enfin, ou alors c'est très rare, mais
alors c'est quel l'intérêt de les bloquer, de les accrocher à un crochet?
Parce que ils vont perdre de la vie petit à petit, et au bout d'un moment ils vont mourir.
Ok, mais c'est quoi l'intérêt plutôt que de le tuer tout de suite?
Non, alors parce que il y a un délire d'entité, les tueurs les tueurs vouent un culte à une entité et c'est pour ça qu'ils sacrifient des gens. Donc tu as le pourquoi du pourquoi dans les films les tueurs tuent des gens. En fait, ils vouent un culte à une entité et pour satisfaire l'entité, ben, il va falloir les sacrifier sur un crochet. Et au bout d'un moment, à la moitié du temps, à la moitié du temps des crochets, tu vas avoir des sortes de pics. De pics bras d'insectes qui vont sortir pour essayer de transpercer le survivant et au bout du temps le survivant se fait planter et il se fait emporter dans le ciel par l'entité.
En termes de gameplay dans le jeu, quel est l'intérêt que tu as de mettre un crochet plutôt que de le tuer tout de suite? C'est ça que je comprends pas.
Parce que tant qu'il est sur le crochet, parce que de base tu peux pas les tuer comme ça, t'es obligé de les foutre sur un crochet.
Ah d'accord. Okay. Tu veux pas les
tuer, as des accessoires. Non, tu as des accessoires ou des offrandes qui te permettent qui permettent à l'entité de te permettre d'en tuer un de tes propres mains. Mais tu dois les mettre sur un crochet pour le sacrifier à l'entité. Et le fait qu'il soit sur le crochet, donc ils y restent un certain temps. Et pendant le temps qu'ils y restent, les autres peuvent le décrocher. Donc soit toi tu campes, ce qui est généralement pas bien vu et ce qui est aussi déconseillé parce que tu vas pas gagner comme ça, c'est clair. Ok, tu vas en sacrifier un, mais les autres pendant ce temps-là, eux ils peuvent ils peuvent remettre en route les moteurs, etc.
Et parce qu'il suffit qu'il y ait qu'un survivant pour que tous les survivants gagnent, c'est ça?
Alors pas vraiment, parce que toi en tant que tueur, si les quatre se barrent, ça va te mettre à la fin. L'entité est mécontente ou un truc comme ça. Si il y en a trois qui se barrent, ça va faire victoire déshonorante. S'il y en a deux qui se barrent, ça va faire je sais plus les termes, mais petite victoire, etc. Enfin voilà. Et par contre, en tant que survivant, quand tu te barres, toi t'as gagné. Mais plus il y a de survivants qui se barrent, plus tu gagnes de points de sang à la fin, en fait.
D'accord.
Donc voilà. Voilà, voilà. Eh bien, c'est tout pour les jeux dont on vous a parlé. Maintenant, il est temps de passer à Parole de Gamer. Parole de Gamer, n'importe quoi. Il est temps de passer à la rubrique de l'invité. Donc voilà. Donc en attendant, eh bien, jouez bien. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires sur iTunes ou sur le site de l'émission ou à venir nous rejoindre sur Discord pour venir parler avec nous. Ça sera avec grand plaisir. Et jouez surtout avec nous parce que, il faut qu'on réussisse à jouer, à créer une grande communauté de jeux ensemble, comme à la bonne époque où on pouvait se coucher à 3h du matin en jouant à World of Warcraft. Mais voilà. C'est ça, voilà. Donc voilà, essayons de recréer tous ensemble
l'illusion, parce que sinon, oui. On doit mettre les enfants à la porte. Voilà.
Donc voilà, allez, d'ici là, on se revoit le mois prochain. D'ici là, jouez bien et faites un bisou à vos loulous. Ciao à tous.